Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza, Quentin Duchemin, Audrey Guélou.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Graphite 94.9. Cet après-midi, comme ces deux derniers mercredis, nous donnons la parole à des étudiantes et à des étudiants de l'UTC pour présenter les travaux qu'ils et elles ont menés dans le cadre du cours WE01 à l'UTC donc. WE01, c'est un cours qui aborde les technologies du web sous plusieurs angles, à la fois les angles théoriques, comment est-ce que ça fonctionne, le web et Internet, sous les angles pratiques, comment est-ce qu'on crée un site web, comment est-ce qu'on le met en ligne sur son petit serveur, et puis aussi sous les aspects culturels, alors ça peut être l'éthique, l'histoire du web, le capitalisme de surveillance, et plein de sujets très intéressants. Alors tout au long du semestre, les étudiantes et les étudiants ont travaillé en groupe sur un sujet qu'ils ont mis en ligne sur leur propre site web et qui contient des synthèse de lecture, un article, des interviews et pour finir, il présente aujourd'hui une synthèse de ce travail à la radio, donc sur Graphite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Augustin, Renaud, Théo, Carrara et Jinghao Yang. Bonjour à vous.
Bonjour.
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 Et le sujet du jour, donc, le sujet qu'on vous avait donné en début de semestre, c'est redécentralisation du web, plutôt blockchain ou chaton. Alors, c'est deux mots qui peuvent paraître un petit peu opaques. En tout cas, à la fin de l'émission, vous en saurez plus. Et l'idée, c'était de parler un peu de la centralisation des applications qui est opérée par les géants du numérique et de la levée de boucliers qui s'opère depuis plusieurs années pour essayer de redécentraliser le web. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Augustin, c'est toi qui vas commencer la présentation et tu vas nous parler des plateformes collaboratives et de comment elles s'inscrivent contre ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme.
Oui, tout à fait. Donc, dans cette partie, je vais essayer de répondre aux questions. Comment est-ce que les communs numériques sur Internet se différencient des entreprises plateformes et parviennent à perdurer malgré une gestion différente ? Et ensuite, en quoi participent-elles à la lutte contre le capitalisme de plateforme et à la redécentralisation d'Internet ? Donc, je vais principalement m'appuyer sur la publication scientifique que j'ai analysée dans ma fiche de lecture au cours de cette intervention, à savoir les plateformes collaboratives, éléments de caractérisation et stratégie de développement de 2019, par Guillaume Compin, Philippe Hainaut, Lionel Morel, Corinne Verscher-Chapta. Ainsi, selon cet article et les travaux du philosophe britannique Nick Srinisek, au XXIe siècle, je cite, « Le capitalisme s'est tourné vers une matière première particulière, les données, pour assurer la croissance de l'économie. Il est désormais nécessaire pour les entreprises de contrôler les données de leurs clients pour établir une économie profitable. Cela est vérifié par le modèle économique développé par les GAFAM, les entreprises parmi les plus rentables dans le monde, possédant la mainmise sur la quasi-totalité des données. » Les offres de ces plateformes gratuites en apparence sont de fait payées en données par l'utilisateur. Les données des utilisateurs sont donc très importantes et sont la source principale des profits de ces entreprises. Une alternative à ce système serait donc l'économie des plateformes collaboratives et l'utilisation des communs numériques. Tout d'abord, les plateformes collaboratives ont pour but de proposer des alternatives viables à petite échelle aux services proposés par les grandes entreprises. Ce sont des collectifs, comme par exemple celui des chatons. Chatons, ça veut dire collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, selon leur site. Elles cherchent des manières alternatives de gestion et de développement afin de résister à, je cite, la domination des grands acteurs monopolistiques que sont les GAFAM, donc d'après mon article, enfin l'article sur lequel je m'appuie. Pour cela, les plateformes collaboratives peuvent utiliser des logiciels libres, ne reniant pas le système de propriété, mais plaidant pour sa réinvention sous des formes garantissant l'inclusivité dont les licences libres des communs numériques consisteraient une illustration. Les communs numériques correspondent à l'ensemble des ressources libres produites par une communauté, à l'utilisation non exclusive et donc ne risquant pas de souffrir des détériorations. Cela concerne notamment des plateformes créées par des bénévoles, comme par exemple Wikipédia, où la totalité du développement et de la modération est gérée bénévolement par la communauté elle-même. Donc nous allons maintenant écouter une interview à propos de la décentralisation d'Internet des solutions économiques et sociales pour l'Europe, par rapport aux GAFAM, de Philippe Lemoine, président de la Fondation Nouvelle Génération, un collectif qui s'articule autour des technologies innovantes à venir. «
Je pense qu'il y a aujourd'hui trois pistes qui me semblent extrêmement importantes. Dans le prolongement du règlement général à la protection des données, du RGPD, qui a comme philosophie le privacy by design, je pense que toutes les technologies qui vont permettre de disrupter l'industrie du cloud et de faire l'équivalent de ce que l'on appelait autrefois le random access, de localiser les données sur des hébergeurs très différents les uns des autres pour éviter une centralisation excessive, c'est très prometteur. La blockchain, c'est bien sûr très prometteur, mais je crois aussi à un des projets de l'initiative JEDI dont je parlais tout à l'heure, la blockchain moins gourmande en énergie. Avec une blockchain. Et puis, il y a un thème extrêmement important sur lequel porte l'initiative de Tim Berners-Lee, l'inventeur, le père du web actuel, qui aujourd'hui veut faire un énorme reset, redémarrage du web autour d'une architecture très différente, qui est ce qu'on appelle l'ontologie numérique, l'ontologie digitale, le web sémantique. C'est-à-dire des données qui restent aux mains des personnes qui les ont produites et qui ne circulent que comme dans les API, que le temps de leur utilisation, aucune centralisation des données. Ça, c'est des technologies qui sont extrêmement disruptives et qui peuvent changer complètement le pouvoir des géants et les menaces qui pèsent sur les personnes du fait de la centralisation des données.
Donc, dans cette interview, Philippe Lemoine indique l'urgence pour l'Europe de résister au contrôle des données mondiales pour des raisons écologiques, mais aussi sécuritaires, afin de protéger les données des utilisateurs. Tout cela dans la perspective de préserver le web sous sa forme décentralisée et de contenir l'influence des géants du numérique que sont les GAFAM. Donc, il indique aussi qu'il faut faire tout cela en assurant une transition écologique. Pour cela, il propose plusieurs solutions, dont les blockchains, dont Théo vous parlera tout à l'heure, mais aussi le contrôle des données par les utilisateurs. Ainsi, dans la même optique, les plateformes collaboratives partagent une volonté de résister aux entreprises plateformes. Il en découle une grande proximité entre la plateforme et les utilisateurs. La récupération des données n'est plus nécessaire, car la raison d'être de ces outils n'est pas le profit. Toujours d'après l'article, ces plateformes n'ont pas pour vocation de concurrencer des outils proposés par les GAFAM. Elles n'en ont pas la taille et ce n'est pas le but de leur création. La création de ces plateformes part simplement du principe qu'une alternative doit exister pour lutter contre la centralisation d'Internet. En effet, cette plateforme projette de contrer la centralisation d'Internet simplement en existant. C'est un peu comme sur n'importe quel marché. Des alternatives se doivent d'exister pour éviter le monopole et donc les augmentations tarifaires et décisions sur le dit marché. Sur Internet, des alternatives existent afin d'éviter les décisions sans contestation possible, non pas pour la concurrence, comme je le disais tout à l'heure, mais pour préserver le principe fondamental d'Internet, la décentralisation. Il est impossible, voire dangereux, de vouloir centraliser un tel réseau. Cela augmente les risques de perte de données en cas de problème ou d'attaque. C'est pour cela qu'Internet est un réseau décentralisé et doit le rester pour pouvoir certifier son bon fonctionnement.
Merci beaucoup Augustin pour ton intervention. Tu as parlé des chatons comme donc ce collectif qui s'inscrit dans l'esprit des plateformes collaboratives. Est-ce que tu aurais d'autres exemples de ce qu'on appelle les plateformes collaboratives, par exemple dans l'article que tu as cité ?
Alors oui, Jingo va vous parler tout à l'heure de Framasoft, qui en est un très bon exemple. Mais dans l'article que j'ai cité, il y avait notamment, par exemple, la plateforme collaborative CoopCycle. C'est en gros une livraison à vélo à domicile qui se base sur une plateforme open source, donc dont le code source est modifiable et utilisable par tout le monde. Et donc le principe, c'est de livrer des repas livrés à vélo. Le financement est solidaire et il y a des cotisations personnelles pour les livreurs et les coopératives. Et donc, c'est complètement ce qu'on appelle le collaborativisme de plateforme, c'est-à-dire que une transparence au niveau du fonctionnement et de la plateforme et une participation financière solidaire.
Ok, donc c'est pas seulement la petite taille et l'utilisation peut-être de logiciels libres qui fait la différence avec le capitalisme de plateforme, c'est aussi tout ce que tu as dit, transparence, modèle économique un petit peu différent, etc. Il y a d'autres éléments auxquels tu penses ou c'est principalement ça ?
Oui, c'est globalement la proximité entre l'utilisateur et les services proposés et la grande transparence et la confiance qui règne, qui permet son fonctionnement.
Ok, merci beaucoup. Il y a Simon qui nous demande est-ce que cette centralisation du web s'applique uniquement aux GAFAM et demande aussi est-ce que vous avez des infos sur l'initiative de Tim Berners-Lee que vous mentionnez dans l'interview. Est-ce que c'est la même chose que les plateformes collaboratives, cette histoire de web sémantique, ontologique, etc. C'est un peu de questions en une, tu peux choisir.
Alors, je vais commencer par la première. On a vu durant le semestre que la centralisation du web, elle peut aussi passer non pas par des entreprises, des grosses entreprises comme par exemple les GAFAM, mais aussi par des États. On l'a vu avec la Chine notamment, qui fait beaucoup ça aussi. Concernant le web sémantique, j'avoue que je m'y connais pas assez et que je préfère pas m'y aventurer pour pas dire de bêtises, mais bon, ça a l'air d'être selon Philippe Lemoine, ça peut être une alternative, mais qui semble plus coûteuse en termes écologiques que les blockchains par exemple.
Ok, il me semble que le projet de Tim Berners-Lee s'appelle Solid. S-O-L-I-D, si jamais vous, auditeurs ou auditrices, veulent aller vous renseigner un petit peu par vous-même, voir de quoi il en retourne. Et enfin, Kylian nous demande, ou Kylian, je suis désolé, chaque semaine j'oublie comment se prononcent les prénoms, est-ce qu'une plateforme collaborative qui est gérée par les utilisateurs peut... comment se passe un peu la modération sur ce genre de plateforme, puisqu'en général, on pourrait avoir une certaine hiérarchie qui pourrait apparaître et empêcher la modération de se faire. Est-ce qu'il y a des règles générales?
C'est tout l'enjeu des plateformes collaboratives. C'est-à-dire que ça fonctionne seulement parce qu'il y a une confiance totale entre la modération et entre le fonctionnement de la plateforme et les utilisateurs. C'est-à-dire que si le contrat est rempli des deux côtés, techniquement on n'a pas besoin de modération parce que tout le monde respecte son engagement. Donc c'est très très utopique comme manière de fonctionner et de penser, mais c'est le principe des plateformes collaboratives, et donc on peut imaginer que la modération est très minime. Et en tout cas, on cherche à la minimiser pour son fonctionnement qui se base sur la confiance.
Merci beaucoup pour tes réponses très intéressantes, Augustin. Je pense qu'un truc qu'on pourra mettre en perspective avec la prochaine émission, c'est ce qui concerne les communs numériques, où finalement les gens décident collectivement d'un mode de gouvernance. Ça peut inclure la modération, donc on parlera de Wikipédia sur la prochaine émission. Mais pour l'heure, on va passer donc à la deuxième intervention. Augustin, tu as mentionné les blockchains comme une solution envisagée sérieusement par pas mal de personnes pour la décentralisation du web. Alors c'est un mot qui est compliqué à cerner par la complexité du système technique qui recouvre. Donc du coup, Théo, on espère que tu vas réussir à nous expliquer un petit peu mieux en quoi ça consiste et en quoi ça pourrait être une solution.
Ah bon, en tout cas, je vais essayer. Donc du coup, maintenant qu'Augustin vous a présenté l'un des moyens de redécentraliser le web de manière collaborative, je vais vous parler d'une manière plus individualiste et méfiante, la blockchain. Tout d'abord, il faut définir ce qu'est la chaîne de blocs. Donc du coup, pour faire simple, elle est présentée comme un moyen de transaction entre deux personnes sécurisées et dont l'historique des transactions peut être vue par n'importe qui appartenant à cette blockchain, en sachant que cet historique ne peut être supprimé ou modifié une fois mis à jour. On peut donc l'imaginer comme un très grand cahier que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer et indestructible, comme a défini le mathématicien Jean-Paul Delahaye. Du coup, on pourrait logiquement se dire comment et pourquoi utiliser cette technologie pour décentraliser le web. Pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur un article rédigé par M. Mana et Boshadad portant sur la blockchain et ses possibles utilisations pour répondre à la crise de confiance qui sévit aujourd'hui. Arnaud Mana, l'un des auteurs de cet article, a déjà publié d'autres revues portant sur des sujets économiques, puisque dirigeant le service patrimoine historique ainsi que des archives de la Banque de France. C'est également un chercheur associé à l'Université Paris 1. Yoram Boshadad, l'autre auteur, quant à lui, est un spécialiste des de la gouvernance des initiatives émergentes et du pilotage économique. Selon eux, depuis l'affaire Snowden de 2013 portant sur l'espionnage de masse de la population américaine ainsi que la crise de confiance de 2008, les populations font de moins en moins confiance en leurs institutions. C'est ainsi que la blockchain, qui est connue pour être utilisée par les crypto-monnaies et notamment le Bitcoin, est apparue comme une solution contre ce manque de confiance. Celle-ci est reconnue pour être sécurisée, être très rapide pour transférer des données et pour être traçable par n'importe qui appartenant à la chaîne. L'une des forces de la blockchain serait de pouvoir transférer des données en pair à pair, c'est-à-dire d'une personne à une autre, sans passer par de grosses institutions comme les GAFAM. Cependant, il s'agirait plus de technologie de la blockchain plutôt qu'une vraie blockchain qui sera utilisée dans le futur, selon eux, pour la plupart des cas, car les vraies chaînes de blocs sont très énergivores, demandent une grande puissance de calcul et n'ont pas d'instance de contrôle. Des composantes technologiques sont donc plus intéressantes à utiliser et permettraient de rénover les infrastructures de transaction et de partage à faible coût. Elles permettraient notamment d'automatiser les transactions, d'avoir un temps de latence très faible comparé à aujourd'hui, notamment pour les publicités foncières ou le secteur bancaire par exemple, et d'avoir un accès transparent et immédiat à une information authentifiée. Selon M. Mana et Boshadad, des solutions hybrides, donc c'est-à-dire alliant la confiance envers les individus ou des institutions à la transparence et l'accessibilité à tous de cette technologie, pourraient voir le jour avec une approche différente du tiers de confiance, c'est-à-dire sans opérateur centralisé et des solutions ouvertes et transparentes. Celle-ci serait le compromis le plus adéquat, car alliant le meilleur des deux mondes, comme le disent les auteurs dans l'article. Ces solutions se rapprocheraient dans l'utilisation de BlaBlaCar ou Airbnb, qui mettent en relation pair à pair des utilisateurs, sans la partie centralisée utilisée par ces sociétés par exemple. Dans le cas de ces entreprises, afin d'être mis en relation avec une autre personne, vous devez passer par les serveurs centraux de la société. On parle pour cette utilisation d'architecture centralisée, car le passage par les serveurs est indispensable au réseau. Si ce point central disparaît, c'est tout le réseau qui en est impacté. Dans le cas d'une blockchain, il n'y a pas de point de passage obligatoire. Les informations transitent uniquement grâce aux nœuds créés par les ordinateurs utilisant cette blockchain, ce qui le rend plus robuste. Cependant, suivant la taille de la blockchain et sa puissance de calcul, l'information peut mettre plus ou moins de temps à arriver, car il faut analyser toutes les chaînes de blocs pour trouver les résultats les plus pertinents. Enfin, on peut voir l'historique des transactions de toutes les personnes appartenant à la chaîne, contrairement aux services proposés par ces entreprises. Cependant, la blockchain, malgré ses avantages, pourrait-elle susciter de la confiance envers la population ainsi que créer réellement un web décentralisé ? Nous allons maintenant écouter un extrait de Kevin Werbach présentant les problèmes de la confiance en la blockchain lors d'une conférence Google.
Because again, the fact that you can trust the blockchain itself, trust the ledger, doesn't mean you can trust the whole system. And in fact, we see all of these cases where this technology gets abused or used for very problematic, untrustworthy things. Still today, one of the, if not the biggest use of cryptocurrencies like Bitcoin for actual transactions is people who want to do illegal things. Money laundering, illegal drug transactions, terrorist financing, and so forth. The New York Times recently collected some data with an analytics firm showing that those kinds of dark market activities are still a huge percentage of what people are doing with cryptocurrencies. Because the money that we have works pretty well and is already pretty digital for doing basic kinds of transactions. It's the people who want to avoid the accountability of that system who are some of the earliest adopters of this technology. And then you have situations like the Quadriga situation, where the basic transaction is a legitimate one, but you can't trust the people on the other end. We saw this with ICOs, initial coin offerings, raised $20 billion in about a year and a half in 2017-18. Huge percentage were just out-and-out scams. Now again, the blockchain, the cryptocurrencies, were valid in the sense that you were accurately getting a cryptocurrency token that represented some share of the available tokens on that prospective application. But that didn't show at all that the person selling you those tokens was not going to basically run away and take all the money.
Dans cet extrait, Kevin Werbach, un universitaire, écrivain et businessman, travaillant notamment sur l'implication commerciale, politique et sociale des technologies émergentes d'Internet et des communications, présente les problèmes de confiance qu'apporte celle-ci. Selon lui et sa source, le journal The New York Times, l'un des problèmes est qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies sont majoritairement utilisées pour effectuer des choses illégales, telles que du blanchiment d'argent, de la vente illégale de médicaments ou du financement de terrorisme. La seconde, qui nous concerne le plus, est le problème de confiance entre les différentes personnes. Il est présenté dans cet extrait avec la levée de fonds effectuée pour créer une crypto-monnaie et présentant les 20 milliards de dollars récupérés comme majoritairement de l'escroquerie. Car malgré qu'un jeton et token ait été donné aux personnes prouvant leur contribution, les personnes à l'origine peuvent juste partir avec l'argent sans donner leur rétribution ou n'ayant pas la valeur escomptée. Dans ces deux cas, on voit qu'aujourd'hui, un problème juridique existe dû à la nouveauté du système. Ces problèmes influencent donc les personnes sur la confiance en ce système. Un autre problème soulevé dans l'article précédent est de savoir si les personnes peuvent avoir confiance en la blockchain. Et leur réponse est positive. Comme il est écrit dans l'article de M. Boshadad et M. Mana, paradoxalement, la défiance envers les individus et les institutions va de pair avec une confiance dans les systèmes informatiques et dans la technologie algorithmique de la blockchain. Cette confiance s'apparente à une foi quasi religieuse dans la mesure où les protocoles et l'économie du système sont difficiles à appréhender. Les personnes ont donc tendance aujourd'hui à plus faire confiance au système informatique qu'en d'autres hommes, même si celle-ci est due à l'incompréhension de la blockchain. Cependant, avec ce système, des problèmes de vie privée peuvent voir le jour. Enfin, on peut penser que cette décentralisation ne serait qu'éphémère. Selon Marilyn Laurent, une professeure et éditrice de l'école Télécom Paris Sud, lors des dernières années, les trois plus grosses blockchains ont réuni plusieurs fois à elles seules plus de 50% de la puissance du réseau. On peut également remarquer qu'aujourd'hui, des points de centralisation existent, notamment sur les plateformes de crypto-monnaies, ce qui est paradoxal avec les promesses données.
Merci beaucoup Théo pour ta présentation. Alors, il y a pas mal de questions, je vais essayer de les trier un petit peu, voir par laquelle on commence. Mais je vais commencer par la mienne. Je me demandais, pour essayer de faire un peu le lien avec ce qui précède, Augustin, tu nous as présenté des plateformes collaboratives. Alors par exemple, je ne sais pas si tu en as parlé, mais il y a Mobicop comme alternative à Blablacar. Là, si on veut essayer de faire un petit peu le lien, comment est-ce qu'on pourrait imaginer introduire une blockchain dans ce genre de plateforme collaborative? Qu'est-ce que ça amènerait? Qu'est-ce que ça changerait dans le fonctionnement? En quoi c'est une alternative qui serait un peu différente?
Pour le coup, cette alternative-là ferait en sorte que déjà, il n'y ait plus d'intermédiaires, parce qu'aujourd'hui, justement, avec les plateformes collaboratives, malgré tout, il y a un serveur. Or, avec la blockchain, on peut directement mettre en relation le client et du coup, enfin, les différents clients, donc du coup, que ce soit la personne qui a la voiture ou la personne qui veut justement faire le déplacement. Et justement, il y a déjà une blockchain qui existe aujourd'hui, qui s'appelle Arcade City, qui a été créée pour concurrencer Uber, et qui met en relation les clients et les chauffeurs, sans justement d'intermédiaire. Cette blockchain-là ne récupère pas de bénéfices, comme justement Uber le fait parce que justement l'information doit passer par du client au serveur de Uber pour ensuite arriver sur au chauffeur et qu'il prenne la course.
Ok, merci beaucoup. Donc une des promesses de la blockchain, c'est, tu me dis, de supprimer les intermédiaires. Amaury, un peu dans cette veine, nous demande est-ce que justement la simplicité, la tentation d'avoir des plateformes centralisées avec plein de super fonctionnalités comme les plateformes permettant d'acheter des crypto-monnaies ou peut-être un intermédiaire justement entre la blockchain et l'utilisateur, puisque c'est pas forcément évident d'interagir avec une blockchain, ça casse le principe de décentralisation puisque ça gère notre accès à la blockchain, ou finalement c'est pas tant un problème que ça dans la mesure où la blockchain est décentralisée derrière?
Alors aujourd'hui, je ne suis pas trop renseigné sur le sujet. Cependant, suivant les quelques recherches que j'ai faites, comme j'ai dit précédemment, la majorité justement des blockchains les plateformes qui revendent justement les crypto-monnaies sont assez centralisées par rapport à la blockchain, ce qui pose un problème justement à ce niveau-là.
Ok, ça marche. Il y a Nassim qui demande si vous avez des informations sur le Web3, parce que c'est vrai qu'on a entendu parler de Solid donc avec Tim Berners-Lee, et on présente souvent le Web3. Alors moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu un mot marketing. Parfois, on a du mal à savoir qu'est-ce que c'est concrètement, mais qui s'appuierait sur la blockchain pour décentraliser le web. Ça te dit un truc?
Alors, suivant les quelques recherches que j'ai pu trouver sur le Web3, en fait, cela fonctionnerait justement à partir du système pair-à-pair utilisé par la blockchain et en mettant en relation justement les différents serveurs. Car là où une blockchain est installée, si une blockchain est installée sur un ordinateur, votre ordinateur est considéré comme un serveur. Et donc, du coup, est un nœud du réseau justement de la blockchain qui permet justement de faire transiter les informations. Donc du coup, cela fonctionnerait sur ce système-là, suivant les recherches que j'ai effectuées sur le Web3. Et finalement, le transfert de données serait totalement décentralisé, car n'allant pas justement sur des serveurs globaux où les informations seraient, où toutes les informations seraient.
Ça marche. Merci beaucoup. Désolé, Kylian et Rémi. Je suis obligé de passer vos questions puisqu'on va manquer un petit peu de temps et on a bien envie d'écouter la dernière partie. Du coup, Jinghao, tu vas nous parler d'un exemple un petit peu plus précis, celui de l'association Framasoft et de quelle est sa vision du monde et comment est-ce que cette vision du monde s'articule par rapport au blockchain. C'est à toi.
Oui, tout à fait. Merci. Dans les deux parties précédentes, Théo et Augustin a respectivement parlé de blockchain et de plateforme collaborative. Et ces deux concepts concernent tous les deux la décentralisation, mais est-ce qu'il y a des différences entre eux? Et nous allons en parler dans cette partie en utilisant l'exemple de Framasoft, qui est un réseau d'éducation populaire consacré principalement aux logiciels libres. Et ma présentation s'appuie sur un article Framasoft de la plateforme à l'Archipel, qui est écrit principalement par Sébastien Boca et Laura Offrère. Donc, la notation de décentralisation est différente entre les chatons et les blockchains. La blockchain garantit la sécurité par des mathématiques. La décentralisation vise à éviter l'absence de pouvoir central, mais c'est un mode très individualiste. Chez Framasoft et les chatons, la décentralisation est aussi un moyen d'éviter le pouvoir central, mais aussi de promouvoir la diversité. La particularité d'un logiciel libre est qu'on peut obtenir son code source. À la base de ça, on peut modifier ses codes pour obtenir une version spéciale selon notre propre besoin. De plus, et on peut contribuer aux mises à jour logicielles. Les caractéristiques d'un réseau social centralisé comme Facebook, par exemple, c'est que s'il décide qu'on ne doit pas voir le sang ou de nudité sur leur réseau, ils le mettent en place et puis c'est eux qui décident. Alors, avec un réseau décentralisé, chacun peut décider de son choix, mais du coup, il n'y a pas d'harmonie. Les chatons sont encouragés à proposer des services différents, avec leurs propres règles, mais aussi avec un ancrage local. On ne peut pas juger si un logiciel est bon ou mauvais, mais on sait que les logiciels libres répondent aux besoins des gens différents qui l'utilisent. Par exemple, un territoire étudiant n'est pas un territoire de travailleurs. Et Framasoft il a aussi un protocole ActivityPub qui a permis à différentes instances et à différents services de s'interconnecter. Dans les plateformes collaboratives, chacun est un individu unique, mais cela ne veut pas dire couper la communication de chacun. C'est donc l'idée de archipelisation. C'est de promouvoir la diversité des parties qui le composent, comme les îles d'un archipel qui ont leur autonomie propre, tout en favorisant l'échange et la communication entre les îles. Et maintenant, nous allons écouter une présentation de PeerTube, un logiciel libre qui est créé par Framasoft.
PeerTube is an open source video platform. Like YouTube or Vimeo, you can watch, comment, and upload videos online, but there's more. It empowers you to be more than a user. You can make the web yours by installing your own PeerTube Federation. PeerTube instances can sync together. When MeowTube chooses to sync with DogTube, all of DogTube videos can be watched on MeowTube. The video files stay on DogTube server while being streamed seamlessly to MeowTube. This federation approach creates a video network with shared video catalog without paying for more disk space. This is the base of the web. Peer-to-peer streaming. You don't need a data center to run PeerTube. When someone watches a video, it is streamed directly from the PeerTube instance.
Et la partie suivante, je vais parler de le fonctionnement de plateformes collaboratives est aussi un modèle social. Et Sébastien, l'auteur de cet article, a utilisé la phrase « Small is beautiful » pour décrire le fonctionnement de Framasoft. Dans cette organisation, les employés sont plus autonomes par rapport aux autres entreprises ou organisations, tout comme chaque individu dans le logiciel libre. De plus, ils ne recherchent pas aveuglément l'expansion afin d'éviter que l'organisation ne soit contrôlée par d'autres et perdent ainsi leurs caractéristiques de la décentralisation. Par exemple, si l'organisation est agrandie, le capital entra, inévitablement et les employés perdront le contrôle de leur propre initiative pour répondre aux besoins de capital. Donc on pourrait dire la notion de décentralisation chez Framasoft et chez les Chardon est un modèle de management, mais aussi un modèle social. On peut décrire un modèle social réorganisé autour d'une fédération de communautés locales autonomes, autogouvernées et écologiques. Cette utopie politique décentralisatrice n'était pas sans rappeler le socialisme libertaire du 19e siècle. Les premiers kibbutz, le mouvement communautaire américain des années 1960, ce qu'on a parfois appelé Back to the Landers, ou encore le municipalisme défendu par Murray Bookchin. On ne juge pas pour l'instant que ce modèle est différent du précédent modèle socialiste. L'idée générale de ce modèle social est de mettre l'humain au centre. On s'adapte aux besoins réels et locaux. Et on ne fait pas une grande chose qui est censée convenir à tout le monde. On s'acharne aussi moins sur la sécurité absolue. Comme les chardons sont des petites structures, la sécurité n'est pas parfaite, mais puisque c'est aussi à échelle plus petite, les risques sont diminués. Tout comme nous gardons de l'argent à la banque, si la banque est volée ou incendiée, l'argent de tout le monde est perdu. Mais si tout le monde garde de l'argent à la maison et la capacité anti-vol de chaque maison n'est pas aussi forte que celle des banques, mais cela réduit le risque. Si une maison prend feu, les maisons des autres vont toujours bien. Donc les autres gardent toujours leur argent. Cet exemple peut-être n'est pas très approprié, mais ça explique ce modèle social diminue le risque. Et aujourd'hui, Framasoft est passé d'une organisation de 3 personnes à une organisation comptant de quarantaine d'employés et des centaines de bénévoles, et a également développé de nombreux logiciels libres à succès. Une autre grande mission de Framasoft est l'éducation de grand public. Peut-être on ne sait jamais à l'avenir, de plus en plus de gens comprendront l'idée de la décentralisation et seront d'accord avec elle. Et peu importe blockchain ou Chardon, ce sont des idées pour la décentralisation, mais aussi des nouvelles propositions pour notre société.
Merci beaucoup, Jing Hao. Alors, toute petite précision, je crois qu'il y a une petite coquille. Framasoft, c'est une dizaine d'employés, je crois, une quarantaine de membres. Alors, il nous reste tout pile 4 minutes. Alors, je vais reprendre une question de Louis. Alors, tu as parlé, et l'affaire un peu à ma sauce. Donc, toi, tu as parlé d'ActivityPub, qui est un protocole qui permet d'avoir, par exemple, un réseau social décentralisé, qui est composé, comme tu l'as dit, de petites îles qui sont quand même connectées les unes les autres, mais qui ont une certaine indépendance. Le problème, c'est que du coup, chaque personne pourrait, chaque instance, chaque serveur pourrait décider d'avoir ses propres règles. Mais bon, elles sont quand même obligées de suivre la loi du pays où elles sont. Mais si ces plateformes, elles sont connectées les unes aux autres, comment est-ce qu'on fait si on se retrouve avec un contenu illégal dans notre pays, mais qui est hébergé dans un autre pays et qu'on retrouverait... Enfin, c'est un peu la question de la modération, finalement, sur ces plateformes. Est-ce que tu sais comment c'est abordé ?
Je peux donner un exemple. Par exemple, sur Facebook, on peut regarder la vidéo de YouTube. Donc, je pense que dans un pays, c'est important de respecter la loi locale. Donc, je pense que peut-être ça sera l'administratif de ces plateformes collaboratives qui s'occupent de faire ce genre de choses, peut-être.
Et est-ce que, à ta connaissance, dans ces plateformes collaboratives, il existe des mécanismes permettant de bloquer, par exemple, le contenu qui viendrait d'une autre instance, ou est-ce qu'on est obligé de voir le contenu de toutes les autres instances?
Non, pour l'instant, non. je pense que, en fait, je pense que c'est un exemple. Cette chose a déjà, c'est contre l'esprit de décentralisation, mais peut-être il y a des choses comme ça, mais j'ai pas de connaissance sur.
Ok, y a pas de souci. Moi, il me semble que sur PeerTube ou Mastodon, on peut dire ok, cette instance, j'aime pas trop son contenu, j'en veux pas, et du coup, on peut se protéger de trucs qui iraient pas dans les règles qu'on a envie de voir ou ce qui serait illégal dans notre pays. Ok, et bah merci beaucoup encore une fois à vous trois. On va bientôt, on va conclure l'émission pour votre présentation. Pour rappel, vous pouvez réécouter les interventions des étudiants d'OWE01 en podcast sur graphite.net, puis dans quelques jours sur l'instance PeerTube à Perry.tube. Si vous êtes curieux ou curieuse de ce qu'on apprend en WE1, eh bien vous pouvez faire un tour sur librecours.net pour retrouver tous les supports de cours. Ils sont accessibles en libre accès. Et on va enchaîner à 15h30 avec une deuxième session cet après-midi qui portera sur Wikipédia. Ça promet d'être très intéressant. Je vous remercie encore une nouvelle fois tous les trois pour votre travail et on remercie Graphite pour l'accueil de ce genre d'émission. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Salut.
Au revoir.
Au revoir.
Merci pour tout.